Cartable FM. Donc, c'est les élèves du collège Anne Frank qui vont vous présenter une petite émission sur le prix des lecteurs. On a travaillé sur la dizaine de livres qui sont en lice. Et donc, on va commencer. On a centré un petit peu notre réflexion sur les situations de discrimination. Parce que on a vu que dans les différents romans, à chaque fois, il y avait des situations de discrimination. Donc, on va demander à Martin s'il peut nous parler un petit peu de l'histoire de Bachapoche. Qu'est-ce qui se passe, Martin, dans ce roman ?
C'est surtout des situations de discrimination envers les filles, parce que, en fait, c'est...
Quel est le personnage principal dans Bachapoche ?
Une fille qui veut se transformer en garçon jusqu'à sa puberté.
Oui, alors, voilà.
Et les filles n'ont pas le droit de faire ce que les garçons ont le droit de faire.
Voilà. Donc, effectivement, elle grandit, Farouka, elle grandit comme un garçon. Et au moment de la puberté, sa mère lui apprend qu'elle est une fille. Hein. Donc, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'extrait où Farouk découvre que finalement elle est une fille.
Les mots ne manquent pas, Le courage me manque. Comment? Alors que ma vie... Comment mon cœur va-t-il continuer de battre alors que ma vie vient de s'arrêter, alors qu'aujourd'hui je suis mort? Désolée, c'est la tradition, me dit ma mère après m'avoir giflé. Tu comprends pas. Je fais le nom de la tête, ce sang sorti de moi me terrorise. Soudain, la sentence tombe. Tu es devenue une femme. Pendant quelques secondes, le calme de maman me rassure. Elle a parlé tranquillement, presque dans un sourire, ce que je n'ai donc pas grave. Puis la détonation éclate. T'es devenue une femme. On ne guérit pas d'être une femme.
Voilà, on ne guérit pas d'être une femme, hein, surtout en Afghanistan. C'est vrai que pour Farouka va découvrir ce que c'est que d'être une femme. Elle n'aura plus le droit de sortir, enfin, et tout ce qu'elle avait investi comme effort dans l'aviron tombe vraiment à rien, et elle est condamnée à être une femme. Hein. Bastien, dans Itawapa, c'est quelle situation de discrimination dont on parle?
C'est les forestiers qui ont une discrimination envers les Indiens.
Voilà, hein, donc c'est une forme de racisme. Effectivement, les Indiens ont été complètement décimés. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire d'Itawapa?
En fait, c'est une fille qui cherche sa mère parce qu'elle est partie en Amazonie et avec son grand-père. Et donc, à la fin, elle trouve sa mère.
Et pourquoi sa mère est partie dans la forêt? Tu sais pas, tu te souviens pas qu'elle part chercher le dernier Indien, elle pense qu'il reste encore un Indien, hein, et elle est partie le chercher et effectivement elle disparaît. Est-ce que tu peux nous lire la scène où l'un des derniers Indiens va découvrir que son village a été décimé?
Les chasseurs, les femmes, les enfants, les anciens, et tout était mort. Incapable de détourner le regard du massacre, l'Indien ferma les yeux pour tenter d'échapper au cauchemar. Rien de cela ne pouvait être vrai. Mais lorsqu'ils rouvrirent les yeux, le corps était toujours là. Le vieux Yosha.
Oui. Et donc, ça t'a touché, toi, cette histoire?
J'ai pas trouvé ça terrible.
T'as pas trouvé ça terrible? Il y en a d'autres qui l'ont lu, Itawapa?
Oui, moi, je l'ai lu.
Lubna?
J'ai trouvé ça très bien. J'ai trouvé que ça faisait partie de l'environnement. C'était un livre vraiment bien, avec en même temps de l'humanité dedans et en même temps comme un peu de la fiction. Donc j'ai trouvé ça bien.
Oui, t'as été touchée. C'est vrai que c'est un espèce de conte écologique un peu, hein, en quelque sorte. Alors, tiens, Lubna, puisque tu parles, tu as lu aussi Swinga Berlin. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de ce roman?
Ça parle d'un groupe, de musique au temps des nazis. C'est un groupe pas de jazz parce que c'est interdit à l'époque, mais c'est un peu comme ça, enfin c'est un peu pareil. Et donc c'est un groupe, ils ont plusieurs avis, enfin sur la politique, ils sont pas tous d'accord, mais le groupe commence à se former, ils deviennent amis.
C'est vrai. Au départ, Théo, tu as remarqué, il y avait certains des musiciens qui, un musicien qui est très pro-nazi, hein, qui est très favorable aux nazis. Tu te souviens?
Oui.
Oui. Et d'autres, au contraire, qui sont résistants. Et toi, tu te sentais plutôt de quel côté?
Je peux pas trop dire parce que c'est compliqué.
C'était compliqué un petit peu parce qu'il y avait un fond historique assez assez complet hein, par rapport à ça. Et tu as aimé ce roman?
Ça m'a plu.
Ça t'a plu, d'accord. Lequel d'entre vous veut nous lire un extrait sur Swing à Berlin? C'est toi. C'est Clélia. Vas-y Clélia, on t'écoute. Donc c'est le moment où la domestique Elsa, la servante de Dussunder, qui est juive, va raconter son expérience dans les camps de concentration. Nous t'écoutons, Clélia.
Les primates physiques étaient plus humiliants, bien sûr. Cependant, je me demande si les insultes permanentes n'étaient pas plus humiliantes encore. Il y avait de la solitude entre nous, mais aussi des mesquineries, des vols. La nature humaine peut engendrer des choses terribles quand elle la pousse. Les femmes qui nous surveillaient étaient pour la plupart terribles. Sadi qui jouissait de la petite pouvoir et faisait du zélé.
Du zèle.
Au début, les exécutions sommaires étaient plutôt rares, enfin je crois. Durant l'hiver 41, les autorités en charge du camp ont établi une commission médicale chargée de répertoire les détenus inaptes au travail, malades, handicapés, mentaux et infirmes.
Alors voilà, donc en fait c'est vrai que cet extrait montre que il y avait un certain nombre de gens qui étaient visés par les exécutions nazies. Hein, d'abord les Polonaises, des femmes qui avaient eu des enfants avec des Juifs, et puis aussi donc les malades, les handicapés mentaux, les infirmes, tous ceux qui étaient un peu différents finalement étaient condamnés. Hein. Alors Théo, tu as lu également Théa pour l'éternité. Hein, donc quelle situation de discrimination on trouve contre qui on s'en prend dans Théa pour l'éternité?
Je ne m'en rappelle plus.
Tu te souviens pas de l'histoire de Théa pour l'éternité? Loubna, tu veux préciser?
La situation de discrimination est plutôt vers les personnes âgées parce que on cherche à être en jeunesse éternelle alors que, enfin, la vieillesse fait partie de la vie.
Voilà. C'est vrai que dans ce roman, tu te souviens, ça te revient, ouais. Théo? Qu'est-ce qui lui arrive à Théa?
Elle reste jeune pour l'éternité.
Tout à fait.
Elle a 16 ans, mais elle se rend compte que c'est pas très une bonne chose parce que elle voit que ses copines y partent et elle va rester tout le temps jeune.
Elle va être la seule jeune.
La seule, ouais.
Donc effectivement, c'est un problème. Tous les autres vont vieillir autour d'elle. Nirina, tu l'as lu toi également ce roman?
Oui.
Qu'est-ce que tu en as pensé?
C'était bien.
C'était bien. Est-ce que tu as été touchée par l'histoire de Théa?
Oui, un peu.
Un peu? Est-ce que toi, tu aimerais vivre jeune éternellement?
Non.
Non, pourquoi?
Chacun son temps.
Chacun son temps, tout à fait. Et tu participes, toi aussi, de même que Loubna, à une rencontre avec les personnes âgées du centre social du Kaléidoscope. Et est-ce que ça t'apporte quelque chose de rencontrer des gens plus vieux et...
Oui, parce que on apprend comment ils étaient quand ils étaient jeunes.
Voilà, donc effectivement, il y a un partage hein, d'expériences différentes hein, que vous pouvez faire. Effectivement. Maud, toi, tu as apprécié l'histoire de Western Girl.
Oui.
Qu'est-ce que tu en retiens?
Il y a une fille qui voulait apprendre à faire de l'équitation.
Oui, et qu'est-ce qu'elle fait pour réussir à être performante en équitation? Où est-ce qu'elle va?
Dans un ranch.
Voilà, elle va dans un ranch, où ça?
Je m'en souviens plus le nom.
Aux États-Unis, hein, aux États-Unis, en Arkansas, hein, je crois. Voilà. Et de quelle situation de discrimination il est question dans Western Girl? Parce qu'il y a aussi un quelqu'un qui est un petit peu mis à l'écart. Est-ce que tu te souviens qui?
Une fille.
Alors oui, il y a elle, hein, l'héroïne, effectivement. Pourquoi?
Parce que elle connaît pas les personnes.
Voilà, elle est plus pauvre un peu, hein, que les autres gens, oui, qui font le stage.
Autres, en fait, les autres stagiaires sont riches et pas elle.
Voilà, les autres stagiaires sont riches, effectivement.
En fait, elle a demandé de l'argent à sa mère pour qu'elle puisse se payer son petit voyage.
Voilà, alors que les autres, bah, c'est ce qu'on appelle des fils et des filles à papa, donc pour eux, tout est facile. Et elle, c'est vraiment par amour du cheval, par amour de l'équitation, elle a fait un sacrifice, elle a demandé à ses parents sacrifice.
En fait, elle travaille, elle faisait des petits boulots pour gagner de l'argent.
Pour pouvoir s'offrir ce stage, hein, effectivement.
Que payer le voyage.
Tout à fait, Maud, c'est vrai.
Et elle rencontre une copine dans son trajet.
Oui, alors elle arrive à se faire des amis, effectivement, et puis elle tombe un petit peu amoureuse aussi. Hein. Je crois que t'es pas encore à ce passage-là.
Si, à ce passage-là.
Ah d'accord, donc voilà. Donc il y a aussi une petite bluette, hein, une petite romance avec quelqu'un qu'elle trouvait comme ça très arrogant parce qu'il avait beaucoup d'argent, puis finalement, il est sympa quand même. Il est aussi question d'une situation de racisme. Est-ce que quelqu'un voit vis-à-vis de qui? Oui, Maud.
Les Noirs.
Les Noirs. T'es sûre?
Oui.
C'est pas vis-à-vis des Indiens, d'un Indien.
Non.
Ah bah peut-être. C'est peut-être moi qui ai oublié. Effectivement.
Et... En fait, il y avait un Noir qui venait pour faire un stage.
Voilà, tu as raison. Hein. Mais un Américain, lui, par contre, hein. Il vient pas de France. Il est Américain.
Non, il venait de. Je ne me souviens plus le nom du voyage. Il venait de.
Il était américain, hein, oui, donc il venait...
J'ai lu qu'il n'était pas américain, les Miami.
Ah, Miami, bah, c'est un américain. Donc, oui. Hein, et effectivement, il vient faire un stage et il est rejeté un petit peu. Les autres se moquent de lui parce que...
Il est noir. Voilà.
Je crois que tu as raison, hein, je crois que c'est vrai, effectivement, il est noir. Hein. Donc c'est une situation de racisme, hein, effectivement, à laquelle on assiste. Alors, il y a un autre roman où il est question d'une situation de racisme, mais là, plus particulière, plus spécifiquement liée à l'esclavage. C'est dans Les Trois Vies d'Antoine Anacharsis. Est-ce que tu peux nous raconter succinctement ce roman qui est très, très riche et plein de rebondissements, Loubna?
Alors, ça parle d'un homme, Antoine Anacharsis, qui a trois vies. En fait, il est dans, à la première partie, il est dans le ventre de sa mère et il l'entend parler. Et ensuite, bah, en fait, sa première vie, c'est quand il naît. Enfin, il est né dans l'eau. Et son but dans la vie, après, ça va être de trouver un trésor qui est donné de père en fils. Enfin,
par son arrière, son ancêtre. Hein, voilà, effectivement. Voilà, c'est bien résumé. Sa deuxième vie, est-ce que tu te souviens qu'est-ce qui lui arrive en gros, quoi, dans sa deuxième vie?
Il cherche le trésor. Il est adopté. Mmh. Il cherche le trésor avec son père adoptif.
Tout à fait.
Voilà.
Voilà. Et la troisième vie,
il se rend compte que en fait, c'est bien beau de chercher le trésor, mais il l'a pas trouvé pour l'instant. Et il se rend compte qu'il a une famille et que c'est déjà merveilleux.
Et voilà, il a trouvé son trésor, en fait, en quelque sorte, hein, c'est vrai. Donc là, mais on apprend aussi beaucoup de choses sur l'esclavage, sur la situation que subissent les esclaves, hein, effectivement. Dans Les Filles de Kutchulainn, Cassandra, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire? Est-ce que tu te souviens un petit peu de l'histoire? Alors, tu dis non en ouvrant de grands yeux. Tu te souviens de rien du tout par rapport à ce roman? Non? Bon, bah, tant pis. Nirina, tu l'avais lu, toi aussi. Est-ce que tu te souviens un petit peu de... Si je te dis des jumelles, un cheval, est-ce que ça te fait penser à quelque chose? Ah, Cassandra, ça lui revient, là. On t'écoute, Cassandra.
Oui, c'est l'histoire de deux jumelles qui ne parlent à personne et leurs parents essaient de communiquer en leur offrant un cheval pour pour s'intégrer dans la société. Et les deux jumelles ont appris une langue que seules peuvent communiquer avec pour que les parents ne les comprennent pas.
C'est vrai, et c'est ce qui leur sauve la vie d'ailleurs, de savoir communiquer avec ce cheval. Alors là, on a une situation de discrimination un petit peu aussi. Est-ce que tu vois laquelle ?
La religion.
Oui, c'est par rapport. Voilà, c'est une discrimination un peu liée à leur religion. Enfin, le fond, c'est l'histoire entre l'Irlande et l'Angleterre, mais c'est juste suggéré, donc je pense pas que vous y avez été très très sensible. Mais c'est quand même une histoire émouvante, hein, entre ces deux enfants qui vivent cette amitié avec le cheval. Nirina, tu l'as lu toi aussi ?
Oui.
Et qu'est-ce que tu en as pensé de ce roman ?
Il était bien.
Il était bien ? Tu as été touchée par cette histoire de...
Oui, un peu.
Un peu, hein. Tu as lu... Enfin, parmi les romans que tu as lus, toi, lequel t'as le plus porté ?
Sweet 16.
Sweet 16, hein. Donc, on va y revenir. Peut-être que Catalina va pouvoir nous dire deux mots sur Sweet 16. Est-ce que tu peux, Catalina, nous raconter un petit peu l'histoire de Sweet 16.
C'est sur...
Est-ce que tu peux t'approcher davantage du micro, Catalina ?
C'est une fille noire qui rentre dans un lycée de blanc.
Oui.
Et qui se fait discriminer.
Oui, hein, tout à fait, qui subit tout un tas d'épisodes de ségrégation, de racisme. Et tu peux développer ? Alors, Théo ?
Et dans ce lycée blanc, il y a une fille qui s'appelle Grace, qui va la voir et qui lui dit bonjour.
Mm-hmm.
Et là, tous les blancs se mettent contre elle.
Mm-hmm.
Et il y a un clan, c'est le Ku Klux.
Le Ku Klux Klan,
oui,
peut-être.
Voilà, le Ku Klux Klan, ouais.
Voilà.
Voilà.
Et tu as un extrait peut-être à nous lire sur un épisode que vit Grace après avoir dit bonjour à Molly.
Oui.
Eh ben, nous t'écoutons.
Dans son oreille, elle sentit le souffle de son troisième agresseur, celui qui la ceinturait toujours, lui écrabouillant littéralement l'estomac. On fait copain avec les nègres. Maintenant, Grace tremblait de tout son corps. Avec le clan, c'était du sérieux. Elle ne serait pas la première blanche à avoir été lynchée pour trahison. Le plus grand repris, tu te croyais au-dessus des autres ?
Merci Théo. Est-ce que quelqu'un d'autre a des choses à ajouter par rapport à ce roman ? Oui, Loubna ?
Moi j'ai trouvé terrible que quand même les profs aussi soient en discrimination par rapport aux Noirs.
Oui, c'est vrai. Hein. On voit dans le roman que certains profs sont racistes. Mais ça se passe à quelle période quand même ? Catalina, tu peux nous dire un petit peu ? Non, à quelle période ça se passe ?
Les années 40.
Ouais, attends, faut que tu t'approches du micro, Catalina, là, on t'entend.
50-40.
Dans les années 50, hein, c'est vrai, aux États-Unis. Ce sont effectivement les premiers Noirs, hein, qui vont être scolarisés dans ce lycée de blanc. Est-ce que vous vous souvenez combien ils sont à peu près, Martin ?
200.
Attends, pas 200, oui.
8.
8, hein. Ils sont seulement 8 noirs à être intégrés dans le lycée de blanc. Martin, tu veux ajouter quelque chose ? Non ? Effectivement, ils sont que 8 au début, et il y en a même qui vont devoir cesser l'intégration parce que ils vivent des choses trop difficiles dans le lycée. Clélia, tu as participé à la rencontre avec Annelise Ortier. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Pourquoi elle a choisi d'écrire là-dessus ? Quelqu'un se souvient ? Oui, Cassandra ?
Pour démontrer que... Pour faire voir aux gens que même si on est noir ou blanc, on est pareil.
Tout à fait, tout à fait. Loubna, tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça ?
Et je crois qu'elle avait dit que aussi pour montrer que notre société n'a pas trop changé.
C'est vrai, hein. C'est vrai qu'elle avait voulu montrer ça, et c'était intéressant de dire bah finalement aujourd'hui les élèves, tous les élèves sont scolarisés. Il y a bien des noirs et des blancs, etc., qui sont scolarisés ensemble. Mais malheureusement, il y a toujours ce fond de racisme qui remonte régulièrement. Il y a toujours des actes parfois de violence. Pour des raisons de racisme, hein, parce que la couleur de la peau est différente, parce que la personne est homosexuelle et puis que voilà, ça suffit pour la mettre de côté, parce que c'est une femme et qu'on est dans une société dominée par des hommes, etc. Alors peut-être pas toujours en France, hein, mais dans la société en général, au 20e, 21e, il y a encore ces faits-là. Théo ?
Mais après, ça aurait pu nous arriver à nous, les Blancs, si... Les Noirs auraient pris le dessus sur nous.
Alors, si les Noirs avaient pris le dessus sur nous, dans quel cas, tu veux dire, tu imagines un...
Bah, l'inverse, les Noirs soient...
Si
nous, les Blancs, on aurait été à la place des Noirs.
Si on avait été à la place des Noirs. Alors, imagine si tu étais, par exemple, dans un pays africain où la population est majoritairement noire, tu penses que ça aurait pu arriver, cette situation-là ? Si tu étais dans un pays africain à dominance noire, est-ce que tu penses que cette situation-là aurait pu se produire ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
J'en sais...
Tu sais pas ?
Non.
Quelqu'un pense que si ? Oui, Maud ?
C'est comme que la discrimination.
C'est comme ? Tu es trop loin.
C'est comme de la discrimination.
Oui, là, alors là, peut-être. Bon, en tout cas, c'est pas sûr. Hein. Ce qui fait que les Noirs n'ont pas réussi, enfin, ce qui fait que la situation ne se serait peut-être pas produite, c'est que c'est les Blancs qui avaient le pouvoir quand même aux États-Unis au moment où les Noirs ont été intégrés. Hein.
Oui.
Ils venaient d'être esclaves, etc. Hein. Donc, ils étaient vraiment dans un statut très très inférieur à l'époque. Alors que c'est vrai que la plupart des Blancs qui sont partis dans des pays africains, par exemple, où la population était majoritairement noire, en général, c'est des pays où ce sont les Blancs qui ont le pouvoir, hein, même ou qui viennent, qui apportent de l'argent, ou qui voilà. Et donc, il peut y avoir des cas de racisme, mais la situation est quand même différente parce que souvent le niveau social est différent. Hein. En Afrique du Sud, la population était majoritairement noire, et pourtant, à un moment, jusqu'à ce que l'apartheid soit rompu, c'est quand même les Blancs qui avaient le pouvoir, hein, parce qu'il y avait cette domination économique. Hein. Donc c'est quand même très très lié à l'argent, tout ça. Hein. Alors, on va peut-être passer à un autre roman. Cassandra, tu peux nous parler un petit peu du roman Gladys et Vova, où on assiste à une situation de discrimination sociale un petit peu, parce que tu te souviens de ces jumeaux, ces faux jumeaux, hein, qu'est-ce qui leur arrive ? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Non, visiblement, ils ne remontent pas à la surface, les faux jumeaux. Loubna, tu te souviens de...
Oui, bah, je m'en souviens un peu. Bah, c'est deux orphelins qui se retrouvent tout seuls. Ils sont adoptés par la grand-mère, mais il y a un problème. Donc, ils sont dans un orphelinat. Et le problème, c'est qu'ils vont être adoptés par une dame qui trouve que la fille est très jolie, mais qui n'aime pas le garçon. Donc, ça va les séparer un peu, donc...
Oui, et puis elle prend un petit peu la fille pour sa poupée parce qu'elle a perdu sa fille à elle. Donc Martin, tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça ?
Bah, entre la fille et le garçon, d'après ce que j'ai compris dans le livre, ils avaient abandonné le garçon.
Oui, tu as raison, à un moment ils se retrouvent séparés. Enfin, ils ont abandonné le garçon à... comment dire ? Ils l'ont abandonné au domestique, en quelque sorte. Hein. Il reste avec le domestique, alors que la fille, elle est avec la famille. Hein. Donc, effectivement, c'est lui, il est vraiment mis de côté. Puis, est-ce qu'à un moment, il se retrouve hein ?
Oui, il se retrouve en cachette, des fois, ou il se retrouve une fois par semaine, je crois.
Oui, c'est ça. Hein. Ils ont le droit, le dimanche, de se revoir un petit peu. Hein. Et... un autre roman aussi que, enfin, le dernier, hein, c'est Holden, mon frère. Est-ce que tu veux dire quelque chose, Martin, par rapport à Non, alors je ne sais pas. Lumna, tu peux nous lire l'extrait ?
Tu l'as fini ? Qu'est-ce que tu en as pensé ? Je lui livre mes impressions dans le désordre. Je parle surtout d'Holden Caulfield et de ceux que j'aime bien chez lui. D'abord, il ne s'efforce pas de ressembler à tout le monde pour être populaire. Il va voir une momie dans un musée, si ça lui chante, sans craindre que les gros durs de son école le voient et le traitent de binoclard. Ensuite, il avoue pouvoir tomber amoureux d'une fille qui n'a rien d'une splendeur. Pour finir, il offre des cadeaux à sa petite sœur, même s'il a des envies d'adulte comme boire de l'alcool. Il est l'inverse des petites frappes qui règnent sur mon collège. Eux, leur radar ne capte que les gens de leur âge. Ils ne pourraient s'intéresser ni à des petits, ni à des âgés, ni à des vieux. Ce qui les prive, à mon avis, de tout ce qu'il peut y avoir de touchant dans la vie. Ça ne leur laisse que le clinquant des portables, des mobilettes et des baskets de marque. Eux, ils rêvent d'avoir la même chose que les autres, et ce que les autres rêvent d'avoir, le premier qui l'obtient a gagné. Holden est bien plus libre qu'eux.
Alors Holden, c'est un des personnages de l'attrape-cœur, c'est le héros du roman que prête Irène, une vieille femme, qui est amie avec Kevin. Et Kevin, quand on voit un petit peu son analyse du roman, est-ce qu'il a des préjugés, lui ?
Non, il n'a pas trop de préjugés. Il a rencontré une vieille dame et il la trouve très gentille. Il se lie d'amitié avec elle.
Voilà. Et dans l'extrait que tu nous as lu, on voit bien que il pense que les marques, les portables, tout ce qui peut permettre de d'étaler un petit peu ses richesses devant les autres, c'est pas très important. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, Cassandra ? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça ? Est-ce que toi, tu penses que c'est important d'afficher ce qu'on est par tout un tas d'attributs, d'accessoires de marque, voilà.
Non, car c'est la richesse du cœur qui compte.
Oh, c'est la richesse du cœur qui compte, dis-moi, c'est beau ça, hein, c'est vrai. Qu'est-ce que vous en pensez les autres ? Il y en a qui veulent réagir par rapport à ça. Martin, tu peux nous dire quelque chose par rapport à ça ? Qu'est-ce que tu penses, toi ? Est-ce que tu penses que, est-ce que c'est important pour toi d'étaler un peu ce qu'on est par ce qu'on a ? Tu sais pas ? Personne réagit à ça. Oui, Lumna ?
Bah, moi je trouve ça un peu, presque ridicule parce que s'ils étalent ce qu'ils ont, c'est pour que les autres les voient et les apprécient. Alors que ça compte pas vraiment que les autres les aiment bien parce qu'ils ont des choses.
Oui, qui coûtent de l'argent ou qui permettent d'en étaler, quoi. Hein. Effectivement. Vous êtes sensible à ça, Théo ? Toi, tu es sensible si quelqu'un te dit « Ah, t'as pas ci, t'as pas ça », tu réagis comment ?
C'est sûr qu'après, on va mal réagir.
Pourquoi tu réagirais mal ? Comment tu réagis ? Si quelqu'un te dit « Tiens, t'as vu, moi j'ai tel portable et pas toi. »
Est-ce qu'on peut avoir toute la richesse qu'on veut ?
On peut pas avoir toute la richesse qu'on veut d'abord, oui c'est vrai. Et puis est-ce que c'est important, dans le fond, Clélia ? Non, tu dis non avec la tête, ça s'entend pas à la radio, mais oui, Lumna ?
Eh bien, moi je trouve que après c'est moi personnellement quand il y a des gens qui me disent t'as pas si t'as pas ça, je m'en moque et je les laisse dire ce qu'ils veulent. Après c'est si ça les dérange, tant pis pour eux. Moi ça me dérange pas.
Oui, comme dirait Cassandra, c'est la richesse du cœur qui compte. Hein. C'est vrai que c'est une vraie richesse.
On peut pas avoir tout ce qu'on veut.
Non, c'est vrai. Puis c'est pas essentiel, hein, non plus. Alors, donc dans tous ces romans, là, on voit qu'il y a beaucoup de situations de discrimination qui naissent à cause de quoi, à votre avis ? Pourquoi est-ce que certains se sentent supérieurs à d'autres ? Oui.
Parce qu'ils ont des préjugés.
Oui, tout à fait. Hein, des préjugés. Et des préjugés, ça s'appuie sur des espèces de stéréotypes. On pense que les Indiens sont comme ceci. On pense que les Noirs sont comme cela. On pense que les femmes sont pas assez ceci. Que les homosexuels sont pas assez cela. Que les gens en vieillissant sont trop, etc., etc. Effectivement, oui. Cassandra, tu veux ajouter quelque chose? Non? Martin, peut-être? Non plus? Bon, eh bien, effectivement, hein, ça part de préjugés. Et qu'est-ce que ça provoque quand quelqu'un est, subit ça? Qu'est-ce que ça provoque, d'après vous, quand on est l'objet de discrimination? Martin, est-ce que tu as une idée? Qu'est-ce que ça fait quand on est mis de côté comme ça, quand on est...
On se sent mal.
On se sent mal, c'est vrai, c'est une des réactions hein, qui peut... Oui, Cassandra ?
On se sent différent des autres.
Oui, on se sent différent. Et on peut être différent, hein, et c'est pas une raison pour être mis de côté. Hein. On est tous un peu différents les uns des autres, hein. C'est plutôt agréable, finalement. Mais le problème, c'est quand on est rejeté. On se sent mal. Est-ce que ça peut provoquer... Qu'est-ce que ça peut provoquer, le fait qu'on se sente mal comme ça ? Oui, Maud ? Non. Martin ?
Des difficultés à le ressentir.
C'est-à-dire ? Tu peux développer ?
Tu peux mal reprendre et puis après tu peux te mettre en colère après les autres.
Voilà, ça peut provoquer de la violence, effectivement. Hein ? Oui, Loupna ?
Ça peut te perturber quand tu travailles, ça peut te perturber tout le temps.
Voilà, hein, ce sentiment de rejet, là, ça peut être cause de vraiment beaucoup de malaise pour les gens. Et finalement, ça n'enrichit personne. Hein, le fait de rejeter les autres, ça n'enrichit personne. Et est-ce qu'il y a, d'après vous, des solutions pour lutter contre... Alors, Cassandra, tu dis non, c'est grave quand même. Oui, Loubna ?
Moi, je pense par exemple aux discriminations des personnes âgées. Mmh. Moi, personnellement, je n'avais pas de discrimination à propos des personnes âgées, mais ils peuvent aller voir des gens plus âgés, leur grand-mère, leur grand-père... Et ils voient qu'ils ont quand même beaucoup à nous apprendre, des métiers qu'ils faisaient avant.
Des plus jeunes, tu veux dire, peuvent aller voir des personnes plus âgées pour se rendre compte que finalement, on n'est pas, enfin, il y a des différences, mais que c'est plus un enrichissement qu'un problème, hein, finalement. Hein. Effectivement, qu'est-ce que vous connaissez aussi comme autre solution possible? Pour des situations de discrimination.
En parler ?
En parler à qui ? À qui on peut en parler ? Tu as raison, hein, Théo.
À sa famille ?
Oui, tout à fait.
À des amis, des proches ?
Oui. Et à quoi encore ? Quelqu'un a une idée ? Oui, Maud ?
À ses parents ?
Oui.
Et à ses papis et mamies ?
Oui, voilà. Donc la famille, les amis, oui.
À une psychologue ?
Oui, tout à fait. Et il y a aussi des associations hein, qui enregistrent les discriminations. Alors, vous avez raison hein, dans tout ce que vous avez cité, mais il y a aussi des associations qui enregistrent des situations de discrimination et qui aident les gens qui en sont victimes hein, ou les gens qui n'en sont pas victimes, mais qui pourraient, avoir des attitudes discriminatoires vis-à-vis d'autres, à prendre conscience que on a tous les mêmes droits hein, et que c'est ça qui est important. Théo, tu as l'air de vouloir dire quelque chose par rapport à ça. Non, finalement, hein, c'est intérieur, hein, mais je sais que tu le penses. Merci hein, de votre implication dans l'émission. J'espère que ça vous a donné envie de lire les romans que vous n'avez pas encore lus du prix des lecteurs. Et puis, nous allons quitter Cartable FM. Et merci à cette radio de nous avoir accueillis.
C'était donc le Collège Anne Frank sur Cartable FM 93.3.